Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Hobart, Christine Minetto et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Salut Seb, ça va ?
Ça va Jeff, et toi ?
Ça va, on se retrouve à deux, hein ?
Eh oui, les meilleurs restent.
Ben oui, c'est ça, on se croirait, il ne manquerait plus que d'ailleurs ce soit l'Ariège et les Pyrénées, on se retrouverait à Ludovia. Hein ?
Ça manque de sources, d'eau thermale, tout ça. Enfin.
C'est ça, tout à fait.
C'est du mal.
Bonsoir, une émission classique, sauf qu'on se retrouve à deux avec un sommaire... où on va parler pas mal de d'actu, on va parler d'étincelles, de numérique, d'un peu de programmation, on va parler un peu de stop motion, pas mal de trucs et astuces de Seb. On va parler un petit peu aussi de neurosciences, parce qu'on en avait parlé un petit peu il y a 15 jours et j'ai trouvé un article assez intéressant dessus.
Chouette.
Et on finira sur pour parler d'autres choses, bien sûr, comme d'habitude. Vas-y, avant de commencer, si vous voulez nous suivre en live, maintenant c'est sur YouTube, c'est vrai que je ne l'ai pas dit il y a 15 jours, sur le site eTeachers.fr, vous cliquez sur live et vous tombez directement sur notre chaîne YouTube, et vous avez le chat intégré en plus, donc vous pouvez à tout moment, en tout cas, nous envoyer un petit message. Avant de commencer, pareil, un petit retour que j'avais un petit peu raté il y a 15 jours, sur Twitter, de Gwenaël Cassel, qui nous avait envoyé une belle photo de son potager. Et il nous disait qu'il écoutait eTeachers et Nipédu dans son potager, pendant Ludovia. Donc voilà, c'était assez sympa. En tout cas, merci à lui, à Gwenaël. Je crois que c'est un prof de sciences physiques, si je ne me trompe pas. Voilà, pour le petit retour. On est parti ?
On est parti.
Qu'est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, non ? C'est bon ?
Non, je t'en prie. Je t'en prie, juste un petit point qui peut être utile. On a notre compte Twitter maintenant pour l'émission.
Oui.
Spécialement pour l'émission, donc vous pouvez y aller, vous abonner et vous recevrez les notifs pour la parution des lives, pour les épisodes, etc.
Bon, voilà. Vous cherchez eTeachers, vous allez nous trouver, alors je crois que c'est eTeachers.fr.
Voilà.
Et ouais, eTeachers était déjà pris, mais bon. Voilà. Allez, on est parti, sommaire, actu, je crois que c'est moi qui commence.
C'est toi.
Je vais parler d'une plateforme, la plateforme Étincelle. Qui est une plateforme qui est le but c'est de allier en tout cas l'éducation avec l'industrie. Donc c'est une plateforme en tout cas qui a été faite dans ce but de valoriser en tout cas la culture industrielle et technique à l'école. Alors pour l'instant c'est une plateforme qui est encore en version bêta et qui devrait sortir en tout cas en 2019, mais elle est déjà assez fonctionnelle, on peut se créer un compte et aller dessus. Quand on parle d'industrie, bon, on pense tout de suite au monde professionnel, lycée pro, techno en collège, mais pas que. Si vous allez sur la plateforme, vous allez trouver des séquences, en tout cas en art, en lettres, en langue, en histoire géo, en éco-gestion, etc. Donc, ça touche tous les domaines, en tout cas dessus, mais c'est avec comme thème l'industrie. En fait, vous cherchez soit par thème. Donc, comme je vous disais, hein, si on va chercher, par exemple, art, lettres et langues, vous pouvez chercher par thème. Il vous propose toutes ces ressources, en tout cas, qui ont été créées en lien avec donc des industriels aussi derrière. Hein. Donc, c'est pas uniquement des profs. Voilà. Ou alors, on peut chercher aussi simplement par mot-clé. Hein. On peut chercher simplement par mot-clé. J'ai besoin d'un truc, je sais pas, sur le développement durable. Eh bien, je vais trouver... pas mal de ressources, en tout cas plutôt bien faites. Pour l'instant, c'est pas énorme de ressources, mais je trouve que l'initiative est bien. On cherche souvent, en tout cas moi dans ma discipline, on cherche pas mal d'animations, de petites vidéos sur des thèmes très précis. et donc ça peut être assez intéressant. En tout cas, Étincelle. L'adresse, c'est un peu. Donc l'adresse, c'est eni-edu.fr. Donc je crois qu'en partenariat, en tout cas d'ailleurs, il y a, si je regarde les partenariats, il y a Canopé, le ministère de l'Éducation nationale, il y a l'IFE, et voilà, à peu près pour les gens qui sont derrière. En tout cas, c'est une bonne initiative.
Tout à fait. Alors, excuse-moi, j'ai été légèrement déconnecté quelques secondes. D'accord, ok. Et tu connais donc depuis
C'est à Lidovia que je l'ai connu, hein, puisque j'avais rencontré un de ses instigateurs, en tout cas, pour le nommer Frédéric Pinchon. Tu étais avec moi, je crois, on avait mangé avec lui. Je sais pas si tu t'en souviens. Qui m'avait parlé d'Étincelle, donc j'avais été voir après... par curiosité, je trouve en tout cas c'est une très bonne chose. Donc pour l'instant il est en expérimentation. Ils attendent des retours forcément hein, quand c'est une expérimentation, mais déjà la plateforme est tout opérationnelle. Voilà, et on a du cycle 3, du cycle 4, du lycée et du supérieur en fait, je ne l'ai pas dit ça. Voilà.
D'accord, bon, c'était quelque chose qu'on pourra surveiller tranquillement.
Voilà, Étincelle.
D'accord, c'est encore à toi je crois.
Ah oui, j'en... Excusez-moi pour le blanc, si je tousse un peu, c'est normal, je suis un peu malade, ça doit s'entendre.
Voilà, il va se reposer, il voulait faire l'émission, tout ça.
Voilà. Le guide de survie des aventuriers d'Internet. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est une version 2, je ne connaissais pas la version 1. En tout cas, c'est l'association qui s'appelle Cécile, qui est le Centre d'études sur la citoyenneté, l'informatisation et les libertés, qui a fait ça en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme. C'est un livret, en tout cas, pédagogique de 80 pages, qui est complètement open source. Donc, ça veut dire qu'on peut tout récupérer en PDF et qui va parler, bien sûr, de tout ce qu'est Internet, qui va parler de, par exemple, des systèmes d'exploitation, des navigateurs. Il va parler des logiciels libres. C'est assez rare, en tout cas, pour en parler. Des moteurs de recherche alternatifs. L'historique de navigation, qui parle des cookies, le traçage, les mots de passe, les hébergeurs de messagerie, les réseaux sociaux alternatifs, l'anonymat sur Internet, le chiffrement, etc., etc. En tout cas, c'est une belle initiative aussi. Ça vient juste de sortir. Moi, je ne sais pas si tu connaissais la première version, non ?
Pendant plus tard. Il n'y a absolument rien, mais pourtant, ça me semble très, très important quand même.
Donc, vous trouvez ça sur un site qui est qui s'appelle lecil.org. Vous allez trouver, donc, c'est... je ne sais pas exactement ce que c'est que ce site, le CIL. Ah oui, c'est l'association, pardon. C'est l'association. Vous allez trouver, en tout cas, toutes les fiches à télécharger. Voilà. C'est une bonne initiative aussi. Et c'est très bien fait.
Ah ouais, tu m'as donné envie pour le coup, tiens. C'est ouais. Non, ça semble tout à fait, je reviens là-dessus, ça semble tout à fait logique. C'est le genre de truc un peu salutaire qu'on a quand on veut, par exemple, donner envie à des collègues de s'y mettre. Et leur donner une petite référence comme ça, ça me semble.
Et ça parle surtout de sujets qu'on n'aborde pas très souvent. Par exemple, tu vois, je parlais des moteurs de recherche alternatifs, tu vois.
Oui.
Il y a beaucoup de personnes ne connaissent même pas l'existence d'autres moteurs de recherche. Hein.
Que celui qui fête un anniversaire aujourd'hui, tu veux dire ?
Peut-être, je ne savais pas que c'était aujourd'hui.
Ouais, mais tu sais qu'ils sont spécialisés pour mettre des petites animations lors des journées un peu particulières. Et là, aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu, c'était encore un de leurs anniversaires.
Tu vois, donc voilà, pas mal de choses, vraiment un peu à part, tu vois, sur le logiciel libre, sur l'anonymat, sur Internet, et des choses qu'on parle pas spécialement souvent, en tout cas en classe.
Mmh. Bah, du coup, je vais aller devoir jeter un coup d'œil, bravo, j'avais pas assez à lire, merci monsieur.
C'est des petites fiches qui se lisent vite.
Voilà, non, mais je plaisante, c'est très bien, très très bien.
Voilà pour la partie actu, on et passe à notre partie outils.
Alors,
eh bah toi.
Oh, c'est déjà moi. Alors, partie outils, de quoi voulais-je vous parler? Alors, on va. Si vous suivez les Teachers depuis quelque temps, vous allez trouver que je suis un peu maniaque sur l'idée, mais je vais vous parler de robots, plus particulièrement de petits robots qui s'appellent Edison. J'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que ce sont des petits robots, les petits robots de format classique. Bon, ils ont la taille un peu d'une boîte d'allumettes avec deux roues à l'avant. Et leur principale caractéristique, on va dire ça rapidement, c'est d'être compatible avec les briques Lego. Et aussi, de ne pas avoir pas être très cher. Donc forcément, ça a tous les arguments pour me séduire. Alors, je vous fais rapidement un petit historique, hein, c'est pas un historique très détaillé. Au départ, ils avaient fait un langage, pour la programmation, c'est une espèce de langage un peu hybride. qui mélangeait à la fois des icônes et pour chaque icône une propriétés sous forme de tableau, etc. C'est pas imbuvable, mais c'était pas très pratique. Donc, il fallait un petit peu initier les élèves. Ensuite, ils avaient développé un langage entièrement graphique. Ça date de l'année dernière, dans mes souvenirs. Et c'était déjà mieux, mais ça restait, je sais pas, c'était pas aussi évident que ça aurait dû l'être quand on a ce genre de robot dans les mains. Et là, ils ont développé un langage qui s'appelle EdScratch. Donc, vous êtes un petit peu habitué, vous devez avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Ça ressemble donc à de la programmation graphique à la Scratch, où vous allez retrouver toutes les icônes classiques que vous avez dans Scratch pour symboliser le départ, les boucles, les opérateurs. Vous avez bien sûr des choses qui sont plus particulières au robot, du style avancer, le moteur droit, le moteur gauche, vous avez les variables, bien entendu, vous avez des points de départ avec les obstacles détectés selon où ils sont détectés, s'ils détectent un clap, etc. Et quel avantage me direz-vous ? Ben, moi, si vous voulez, c'est très simple. Là, en ce moment, avec mes élèves, on est en train de faire de la programmation. On fait on débug un jeu que j'ai pêché dans une collection dont je n'ai pas déjà parlé l'année dernière. Et une fois qu'on aura fini ça, pour passer au robot, ça va être mais comme dans du beurre, parce que la logique, elle reste la même. Le langage ressemble beaucoup. Il faut simplement se mettre dans la peau du robot, si vous me passez l'expression. Mais à part ça, eh bien, rien de très très compliqué. C'est en plus une interface très dépouillée, c'est en ligne. Par contre, ça, c'est leur choix. J'ai fait quelques essais et franchement, j'ai été agréablement surpris par rapport à ce qui avait été fait précédemment. Donc, je compte bien revenir dessus une fois que mes élèves auront mis les mains dedans, mais franchement, j'ai quand même l'impression que ça simplifie énormément les choses par rapport à leur tentative précédente. Et je rajouterai en plus, sur le site, vous avez, comme à leur habitude, à chaque fois qu'ils sortent ce genre de langage, ils vous font un livret d'accompagnement. Bon, c'est en anglais, mais bon, il ne faut pas non plus être bilingue pour comprendre. Vous avez des séquences toutes prêtes, vous avez des constructions à réaliser. En fait, voilà, vous avez quasiment tout clé en main.
D'accord. En tout cas, ça va booster ce petit robot là qui, quand on avait parlé un petit peu autour de moi, tout le monde disait que c'était le langage qui pêchait un peu. Tu vois, ça va lui mettre un petit coup de boost en tout cas.
En fait, j'ai un peu de mal je suis content que tu me dises que ce soit le langage qui bloque un peu parce qu'à chaque fois, je sais que quand on parle robotique, j'en parle parce que les collègues sont sensibles au prix, forcément. Par exemple, moi je vous dis pour l'année dernière, j'en ai acheté deux avec un espèce de pack qui faisait très pratique pour pouvoir les combiner, faire une espèce de tractopelle ou une machine à dessiner ou ce genre de choses. Tout ça pour moins de 100 euros.
D'accord, parce que celui de base, il est à combien ?
Basiquement, vous l'avez autour de 50.
À peu près. Ouais, donc c'est très intéressant.
Donc, franchement, c'est un bon petit robot. C'est pas, il a ses défauts, bien entendu. Hein, faut pas se leurrer. Mais franchement, il a pas mal d'avantages.
Donc, oui, il a pas mal de capteurs aussi, non ? C'est ça ?
Oui, il a des capteurs. Enfin, c'est un vrai robot, quoi. C'est pas un truc uniquement programmable et qui foncera dans le mur. Non. Il a ses capteurs, il a ses LED, il fait sa musique. Enfin, voilà.
Non, puis en plus, comme le langage bloque, c'est le langage en soi que, voilà, qui est... On a décidé que ça allait être jusqu'au lycée, donc je pense que ça va lui donner un bon petit coup de boost à ce robot.
Bah, disons que pour ceux qui ont eu la joie de connaître les premiers pas sur du langage où l'on tape tout, c'est certain que ça facilite énormément les choses. Quand il n'y a pas d'erreur d'orthographe et qu'il n'y a que de la syntaxe, c'est
bon. Ouais, non, mais je ne parle même pas ça, je parle aussi du langage avant, tu sais. C'était des blocs, c'est ça ?
Langage, je pense qu'ils ont fait des essais, mais ils se sont engagés, tu sais, à mi-chemin à chaque fois entre deux trucs. Un peu de graphique, mais quand même un peu de texte à côté, parce qu'on ne sait jamais si...
D'accord. Voilà. Mais uniquement en anglais, par contre, hein, c'est ça ?
Ah oui, alors c'est uniquement de l'anglais. Bon, franchement, sincèrement, je sais que moi, ça fera une petite révision à mes élèves. Après, c'est des verbes, wait, repeat, forever... If, then, enfin bon, c'est franchement, c'est de l'anglais de base, de chez base, Et bizarrement, de toute façon, quand c'est pour programmer un robot, il y a beaucoup moins de soucis.
Je rappelle, tu as des cycles 3, toi, hein, c'est ça?
Oui, alors moi, j'ai même des cycles 2, je descends jusqu'au CE2, donc...
Voilà. Et ça ne commence pas en CE2, l'anglais?
En CE2, on s'adapte. En CE2, on s'adapte. Moi, après, je fais pas mal de mélanges de groupes, etc., parce que j'ai des CE2 qui sont, très à l'aise, et j'ai des CM2, parfois, qui sont un peu pataux, donc c'est pas plus mal. Non, okay. C'est pas ça bloque pas trop quoi.
Non, je te pose la question parce que j'ai eu pas mal d'instits quand je leur ai dit en cycle 2 un langage en anglais qui ont un peu pris peur donc.
Non, il faut pas faire ça. Moi, je me rappelle il y a des années, on avait je regardais sur le site, mais il y avait Adobe, je sais pas comment on l'appelait. Non, c'est Spark.
Et, Voice.
Ouais. Voilà, Voice. On avait Adobe Voice. Et le truc d'Adobe Voice, c'est qu'on avait le choix pour faire les petites présentations. C'est soit on faisait une recherche en français, on avait, je vais exagérer, 5 résultats. Et on faisait la même recherche en anglais, on en avait une vingtaine. Ce que faisaient les collègues à ce moment-là, ils se faisaient des pages entières de lexique. Hein. Ils se faisaient, regarde, si tu cherches ça, cherche ce mot-là en anglais, etc.
C'est bien.
La personnalité des apprentissages, pour moi, c'est.
Très bien.
Essentiel.
Ok, très bien. Voilà. Donc, Ed Scratch, on tape ça sur Internet, on le trouve.
C'est alors, ça on va sur le site meetedison.com et là, c'est un petit site tout simple, tout tranquille. Vous pouvez ou commander les robots ou programmer les robots avec les différentes versions. Sachant que les langages dont j'ai parlé qui étaient avant, je crois qu'ils les ont retirés pour certains. C'est pas plus mal.
Ok.
Voilà.
Allez, moi, je vais vous parler de. J'enchaîne. Je voulais faire du stop motion. Stop motion, vous savez, c'est le principe de l'image par image.
Eh oui.
On prend une multitude de photos et donc comme ça, on peut animer n'importe quel objet en tout cas. Je voulais faire ça, j'avais envie un petit peu de changer un petit peu pour des élèves quand ils font des petits tutos, de le faire plutôt par stop motion plutôt que de la vidéo ou des séries de diapos. Mais je voulais que ce soit sur tablette, forcément. Hein, c'est quand même plus simple. Je ne voyais pas sortir l'appareil photo et compagnie et faire
non,
ça sur PC.
C'est une galère sans nom.
C'est une galère sans nom. Donc, j'ai trouvé un qui s'appelle Animation en volume. Il est plutôt très, très intéressant. Il est gratuit. Alors, il y aura une version payante, j'en parlerai tout à l'heure. Il existe sur Android et sur iPad. On va créer un projet. Tout simplement, on va commencer à prendre une photo avec notre téléphone ou avec la tablette. Ensuite, la deuxième photo, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir la superposer, la première photo, vous savez, en filigrane un petit peu derrière, un peu en transparence, on va pouvoir voir la première photo qu'on a prise pour bien ajuster la deuxième. Donc ça, c'est vraiment le truc de base sur un stop motion. Quand on n'a pas ça en stop motion, c'est assez compliqué, je trouve. Voilà. Donc on arrive à faire des trucs assez sympas rapidement, même sans trépied, tu vois, normalement le vrai stop motion, il faudrait vraiment avoir un trépied pour que ça bouge pas, etc. Mais grâce à ce petit ajustement de voir l'image précédente, on va pouvoir bien se caler par rapport à l'image d'avant, donc on peut faire même sans trépied. Ensuite, on va pouvoir enchaîner hein, comme ça les différentes photos. Ensuite, on va pouvoir s'enregistrer. Donc enregistrer l'histoire, on va pouvoir s'enregistrer en audio, raconter, etc. Et on arrive bien sûr à la limite de la version gratuite. On en est là. Donc après, on peut créer une vidéo, il n'y a pas de souci, etc.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Il va manquer, moi je trouve, la musique de fond et les bruitages. Voilà, la musique de fond et les bruitages, c'est la première chose que j'ai achetée, moi, parce que c'est compliqué de ne pas mettre des bruitages quand on a fait une petite vidéo là avec ma fille... pas plus tard qu'hier, avec ses Playmobil sa voiture qui avançait. Donc, j'ai dit, il faut quand même un bruitage de voiture, quoi. C'est pas non, hein. Donc, voilà. Après, on peut acheter des choses en plus, dont le fond vert. Ça, c'est super intéressant. On peut mettre un fond derrière, vous savez, le fond vert, un fond vert, et on peut incruster n'importe quoi derrière. Et ça marche vraiment du tonnerre, quoi. Ça marche vraiment du tonnerre. Donc, c'est vraiment j'en ai testé pas mal de stop motion. Même la version gratuite, il n'y a pas un brin de pub. Avec ça, c'est déjà bien parce que j'en ai beaucoup des versions gratuites avec de la pub à gogo sans arrêt. On a des arrière-plans qui sont prédéfinis si l'on veut. On a des thèmes pour nous simplifier aussi les choses. Voilà. Quoi d'autre de plus dessus ? On peut faire des effets de fondu. Après, on peut acheter des choses supplémentaires avec des filtres. Enfin, il est vraiment, vraiment, vraiment complet. On peut insérer même des morceaux de vidéo dessus. Pourquoi pas ? Bon. Voilà, ça peut être intéressant. On peut, il y a des options aussi pour colorer directement sur l'image. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour des possibilités. En tout cas, je trouve vraiment très puissant. Je vais l'utiliser moi en classe en tout cas parce que ça change un petit peu quand je veux voir un petit peu ce que les élèves ont compris. Des fois, je leur fais sous forme de ou soit de diapo ou soit d'enregistrement audio, vidéo. Là, je pourrais faire un peu de stop motion, ça changera un petit peu.
Alors, j'ai une petite question en fait.
Oui.
Par rapport au titre, animation en volume.
Ouais, c'est une bonne question. C'est peut-être une très mauvaise traduction, je ne sais pas.
Parce que, alors, je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'au départ, quand j'ai vu ça dans le fil de l'émission, je me dis, ah ben zut, ça c'est dommage. Parce que le stop motion, moi j'en fais pas mal avec mes élèves. Par exemple, moi j'aime bien faire un truc, c'est le faire le dessin à plusieurs où chacun rajoute un petit élément à chaque fois, on prend la photo, et ils sont toujours bluffés par le résultat. Et pourtant, j'utilise une application où il n'y a même pas la possibilité de voir la transparence avec le truc d'avant. C'est une application vraiment basique où, en gros, une fois que c'est fini, ça te fait le film automatiquement. Et bien, même ça, ils sont super, super contents quand ils voient ça. Donc là, ton application, j'ai bien envie de la tester demain. Tu vois,
parce que tu testais quoi, toi, avant, c'est ça ?
Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle a un côté pratique parce que, si tu veux, tu peux commander les tablettes entre elles ou les tablettes avec le smartphone. Il y a deux applications. Tu sais, une application qui va prendre les photos, une application qui peut faire télécommande. Mais là, pour le coup, ça m'intéresse un peu plus.
Ça aussi, c'est une option où tu peux payer pour déclencher à distance aussi.
Bah, tu sais, je préfère ce principe-là où en fait, tu construis ton application et tu y mets le prix que tu veux plutôt que...
Je n'ai pas testé. Bon, alors, je sais qu'on ne partage plus trop l'écran, mais en gros, voilà ce que j'ai pu faire en 10 minutes avec... vous n'avez pas le son, c'est tout.
Voilà. Non, mais c'est... voilà.
Bah, des choses très simples. Sans trépied, sans rien, tu vois. Voilà.
Ouais, non, mais c'est exactement ce que moi j'aime. Donc, écoute, je vais me la tester demain, celle-là.
Voilà, animation en volume.
Ça. Ouais, non, mais ça a l'air.
J'en ai testé quelques-unes. Ouais.
Ah, ouais. Écoute, je retrouverai. Celle que j'utilisais était assez vieillotte, en fait. Et puis, avec des petits trucs qui pouvaient être un peu. Qui étaient un peu pièges pour les élèves. Mais non, celle-là me dit bien, du coup.
Maintenant, quand je pense. Je pense à l'instinct de ma fille qui fait ça avec appareil photo et un ordinateur.
Alors, on peut. franchement, on peut. Bon, après, ouais, pourquoi pas. Mais c'est toujours la même chose. Si tu veux, moi, j'aime bien le numérique pour le temps que je ne passe pas devant.
Ben oui.
Voilà. C'est-à-dire que c'est sûr qu'avec un appareil photo, un truc, en prenant le temps, tu auras un résultat qui, au final, sera beaucoup mieux. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un résultat beaucoup mieux pour faire une initiation à ça, tu vois.
Tout à fait.
Parfois, on vise tellement un projet. Parce que quand tu mets des moyens pareils, tu vas viser un projet qui est très ambitieux dans sa forme ou dans sa fin. Tu vas avoir une qualité de produit. Moi, franchement, avec la petite animation que j'utilisais avant, je m'en fichais. Quoi. Il y a des photos, il y avait les doigts des enfants dessus, mais eux s'en fichent. Ce qu'ils regardent, c'est le produit fini. Ils n'en ont jamais fait. Ils ont le côté émerveillé. Je suis content. On a gagné. On pourra en refaire.
Ouais. Tout à fait. Voilà pour les outils.
Ben merci Jeff. Voilà, merci. Tu viens d'animer l'après-midi de mes élèves de demain.
Ah bah ça fait plaisir. Ah. Tu m'enverras. Tu envoies-moi une petite photo.
Ouais. Pas de souci. Je te fais.
Allez, truc et astuce. Je crois que c'est toi là.
Alors moi je vous ouvre la pochette surprise là ce soir. En plus je vais même rajouter autre chose que j'ai fait. Donc des petits trucs et astuces vraiment qui ne changeront pas votre vie, mais qui peuvent être pratiques. Par exemple. Quelque chose dont je me suis aperçu tout récemment. J'utilise pas mal Drive, l'utilitaire nuage de Google. Et dessus, j'ai pas mal de mes preps, etc. Mais moi, je bosse sous LibreOffice chez moi. Et forcément, Drive et LibreOffice, ils n'étaient pas copains. Et ben maintenant, oui. Maintenant, Drive est capable de vous donner une prévisualisation de ce que vous avez fait sous LibreOffice. C'est un petit détail pour vous, mais pour moi, ça change beaucoup. Hein. Franchement, ça veut dire que je n'ai plus besoin d'utiliser un gros lecteur de fichiers ODT pour ça. Alors, j'ai essayé avec le texte et avec le tableur pour l'instant. Je n'ai pas essayé les autres formats.
C'est juste lecteur ou ça modifie ?
Non, lecteur. Lecteur, voilà, malheureux. Je crois que, quoique tout à l'heure, il m'a dit que Spreadshirt pouvait le. Enfin, non, que le tableur de Google pouvait me l'ouvrir, le dossier. Donc, si ça se trouve, il peut même l'ouvrir maintenant.
D'accord. Bon, ok.
Mais moi, rien qu'il puisse me le montrer.
Ouais, et là, Google voilà. LibreOffice en même temps, c'est dingue ça.
Ouais, c'est un peu, comment dirais-je, un mariage qui ne devrait pas avoir lieu.
C'est ça.
Mais
ouais.
Bon, je pense que c'est pas mal. Si tu veux, moi, je vois le bon côté, le côté clair en disant. Mais ça prouve quand même que LibreOffice a suffisamment de poids pour être, oui. devoir être lu maintenant.
Il a bien voilà. évolué. Voilà. Il lui suffit sur mobile, quoi. Voilà. C'est le gros problème, je trouve encore.
Oui. Mais bon, que veux-tu. Après, je vais partir dans d'autres trucs pour te. D'accord. Je te donnerai bien mon flux de travail, mais c'est pas la question. Ensuite, petit truc pour ceux qui aiment bien ranger leurs dossiers. Alors moi, je ne sais pas que je sois maniaque, mais mon dossier de boulot, comme je suis obligé d'y revenir à certains dossiers, je les ai bien rangés. Qu'est-ce que je veux dire par bien rangé ? C'est par exemple, j'ai un dossier impression. C'est-à-dire que je fais beaucoup de fichiers à la maison, de fichiers à la maison que je vais imprimer au boulot. Et j'ai un dossier spécialement pour ça. Ça c'est tout bête, mais j'aime bien l'avoir en haut dans ma clé. Hein. Quand j'arrive que je branche ma clé, j'aime bien que ce dossier-là soit tout en haut. Pas qu'il soit rangé par ordre alphabétique avec les i à la noire, mais bien en haut du truc. Alors, comment je fais ? Je mets des numéros, en fait. Hein. Dossier impression, c'est mon dossier 00-impression. Et du coup, comme l'explorateur Windows les classe par alphanumérique, il commence par les nombres en premier. Donc, 00, c'est mon dossier impression. Si vous vous demandez le 00, c'est parce que, fut une époque, je faisais de la programmation avec du 10, 20, 30, c'est en basique. Donc, 00, c'est pour l'impression. Ouais, je sais, je te parle en même temps, tu m'as compris. 10, c'est pour tout ce qui est administratif. 20, c'est pour le français. Et 30, c'est pour les maths. Ce qui fait qu'en haut de mon explorateur Windows, quand je l'ouvre, j'ai toujours ça en premier. D'accord. Et les trucs que je veux voir en bas, pour ceux qui réfléchissent un petit peu, attention, ce que je mets tout en bas, je mets un Z au début. Un Z, un tiret, puis vous êtes tranquille, c'est classé tout en bas. Ça peut avoir son utilité. Donc voilà, si vous avez envie de bien ranger vos fichiers tranquillement et qu'ils ne bougent pas, c'est une option. Ensuite,
j'avais jamais pensé. Ouais.
Ah mais écoute, tu sais quoi ? J'ai presque été tenté d'en faire un tuto de ça, mais je me suis dit c'est un peu trop simple. Ensuite, en fait, je l'ai dans ma main. Ça ne veut pas dire grand-chose pour ceux qui vont l'écouter en podcast. En fait, je me suis acheté tout récemment une clé à deux têtes. C'est-à-dire que c'est une clé qui a un port USB classique et un port micro USB qui se branche sur mon smartphone. Alors, j'ai cette version-là. J'ai aussi la version à trois têtes. Celle qui se branche sur l'iPad. Oui, je sais. Je suis un peu fou. Voilà. Version à trois têtes, celle-là, elle est très pratique. Pourquoi ? Je vous ai dit, j'utilisais le Drive de Google. Ça veut dire qu'il y a quand même des trucs que je ne veux pas mettre, du style les fiches de renseignement de mes élèves, les évaluations de mes élèves. Enfin, il y a des tas de trucs, des tas de renseignements que je ne veux pas avoir dessus. Elles sont là-dessus, tout simplement. Et mon téléphone peut les lire parce qu'il suffit que je le branche dessus. Donc ça, c'est une bonne petite option. Après, pour ceux, par exemple, qui ont envie de prendre une photo avec le téléphone, de la mettre tout de suite sur un ordi, et qui n'ont pas envie de se casser la tête à faire un dossier, partager un lien, etc. C'est facile, on est d'accord, mais bon, on peut ne pas avoir envie. Eh ben ça, tac, ça va me prendre 5 minutes, en gros, pour le transférer sur l'ordinateur. Donc, c'est pas mal du tout. Ça ne coûte pas cher du tout. Hein. Celle-là, elle fait 32 gigas, elle m'a coûté 10 euros. En plus, ce n'est pas une marque à la noix, c'est SanDisk, hein, c'est classique. Donc, bon petit investissement. Et je terminerai par un truc, c'est que cette année, je me suis mis à Mirage Make, la solution de réalité augmentée de Marc-Aurélien Chardine. Et j'aime beaucoup un petit détail. Alors, les dictées en autonomie, il a fait un truc qui est magique, quoi. C'est vous collez un texte, vous obtenez un QR code, et quand la machine le lit, ça fait une dictée en autonomie à l'élève. C'est-à-dire que l'élève, il a un lecteur, et la machine le lit toute seule, quoi. C'est super, quoi. J'ai un élève, c'était fait pour lui. C'est magique. Mais alors, le truc plus gadget, mais que j'aime beaucoup, il a fait un musée virtuel. Je m'explique. Vous avez l'option d'importer, je crois, jusqu'à 5 images. de choisir une couleur d'entrée, de choisir un petit texte, etc. Ça vous fait une espèce de petit espace où vous pouvez vous balader. Vous avez les joysticks sur l'écran qui vont apparaître. Vous vous baladez là-dedans et vous regardez ça comme dans un musée classique. Ça, c'est la surprise que j'ai réservée à mes élèves pour demain. Je leur en ai fait un avec les dernières productions qu'ils ont réalisées. Donc, ça fait un joli petit musée avec trois tableaux qui résument, où j'ai collé leurs œuvres différentes. Donc, voilà. C'est tout bête, hein. ça change.
Je l'avais vu, ça. Plus, hein. Mais c'était pas une option, ça, non?
Alors, je parle d'options qui sont payantes.
Ouais. Ah oui, donc tu es passé à une option payante.
Ah ouais, non, je suis passé à la caisse. Ouais. D'accord. Je suis passé à la caisse parce que, à mon sens, le produit le vaut. La dictée, par exemple, c'est un truc, mais on bricole tous des dictées et là, ça facilite énormément les choses. Je vous parle bien simplement, on copie-colle un texte.
Ouais, c'est génial, ça.
On appuie sur OK, c'est fait. On a notre QR code, la machine le lit, elle fait toute seule. Mmh. L'élève, il peut écouter, réécouter, changer la vitesse. Je vois qu'il a, quand on accède à ce genre de truc, on voit qu'il a eu des tas d'idées, qu'il les a mises les unes après les autres. Et franchement, il y en a certaines qui valent le détour. La seule chose, s'il nous écoute pour le musée, si on pouvait avoir plus d'images, quoi. Alors j'ai pris toutes les productions de mes élèves, je les ai classées, je les ai collées, j'ai fait trois images avec. Mais si on pouvait en avoir plus, ce serait un peu plus sympa. Moi, je pense que c'est une place sur le serveur, quelque chose, ce genre de problème.
Oui, parce que ça, c'est stocké ailleurs, ça.
Non. Voilà. Tout à fait. Et voilà.
Ok.
Il y a le fond de la pochette, j'ai enlevé tout le papier, il ne reste plus que l'emballage et trois trucs plastiques, c'est bon.
D'accord.
Oui, j'ai pas connu les pochettes surprises, crois-moi que, franchement.
Ouais, j'ai connu. Bon, allez, pas mal de trucs et astuces, c'est bien. Allez, c'est à moi. Innovation, expérimentation, notre partie. Moi, je suis tombé sur un article du site. J'ai perdu le nom du site. Si, le temps, TEMPS, hein, le temps. Alors, qu'est-ce que c'est le temps? Je me suis quand même renseigné avant. Hein. J'ai fait pas mal.
C'est l'holographie des sciences, en fait.
Je me suis fait avoir 2-3 fois. Non, c'est un grand site en tout cas suisse d'actualité plutôt générale et qui a fait un site qui a fait en tout cas un article que j'ai trouvé intéressant qui s'appelle l'erreur et la condition même de l'apprentissage. Donc en fait c'est plus un interview d'un certain Stanislas Dehn. Dehn, tu dis?
Oui, Dehn.
De Dehane. Dehn, tu dis?
Ouais.
Professeur de psychologie cognitive au Collège de France. Et donc c'est vraiment donc c'est plus à l'interview en tout cas qui va parler que le temps a fait. En tout cas, il a publié en tout cas un bouquin qui s'appelle Apprendre les talents du cerveau, le défi des machines. Donc c'était en tout cas l'occasion du site de proposer de l'interroger sur des recettes en tout cas qu'il expose dans son bouquin sur des recettes sur un apprentissage réussi. Donc c'est bien sûr inspiré des neurosciences qu'on a parlé un petit peu il y a 15 jours et de la psychologie cognitive et des sciences de l'éduc bien sûr. Comment ça commence? Il dit en tout cas les interventions pédagogiques qui marchent ont été recensées par un site anglais. Il dit que ça a été en tout cas, il y a un site anglais qui s'appelle Education Endowment Fund, qui a en tout cas recensé tous les trucs qui marchent. Et savoir apprendre est l'un en tout cas des plus importants facteurs de réussite scolaire. Ça c'est ce qu'on attend, qu'on entend parler en ce moment. Il prend l'exemple des bébés. Les bébés, ils ont un sens inné, en tout cas, ils disent des probabilités. Tiens, le bébé est un scientifique en herbe. Ben oui, dès les premiers mois de la vie, il formule, en tout cas, à son insu, des hypothèses sur tout ce qu'il voit, en tout cas, et de son environnement. La première fois, en tout cas, que sa mère lui dit, ben, par exemple, regarde ce chien, et ben le bébé, lui, il peut croire qu'il s'agit ben, de ce chien, du seul chien qu'il a devant lui. Mais quand il entend à nouveau ce mot-là appliqué à d'autres chiens, il élargit le concept, en tout cas, à toute l'espèce. Et c'est comme ça qu'il se rend compte que ce que c'est le chien. Il lui dit qu'il suffit 3 ou 4 expériences pour qu'un bébé, en tout cas, converge vers le sens d'un mot nouveau. Et il dit, en tout cas, qu'il opère 10 à 1000 fois plus vite que les réseaux de neurones artificiels actuels. Ça me rassure, ça. Il dit tout le temps que le bébé, en tout cas que le bébé humain expérimente en permanence. Hein, quand il fait tomber sa cuillère pour la 10e fois, ça nous gonfle assez souvent.
Attends, ben
non, non, il teste les lois de la gravité, hein, tout simplement. Donc, il dit que l'apprentissage, en tout cas réussi, repose sur quatre piliers. Le premier, c'est l'attention. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Il dit que ça l'impose de ne pas se laisser distraire par des informations non pertinentes. Donc, les enseignants essaient d'écarter en tout cas toutes sortes de distractions. Il parle des classes, par exemple, trop décorées. Il dit que ça peut être source de distractions.
Alors, pour aller dans ce sens-là, dans une des formations que j'avais vues, il y avait justement de l'apprentissage, que la concentration, l'importance de la concentration, le faible temps de concentration qui est à notre portée. Hein, parce que ça, je l'ai vu plusieurs fois et dans des cadres totalement différents, le temps maximal, c'est 20 minutes de concentration réelle.
Ouais.
Au-delà de ça, je parle d'adultes, hein, au-delà de ça, ben, vous faites autre chose pendant quelques minutes de manière à pouvoir remobiliser votre attention ensuite.
Ensuite, il enchaîne sur le deuxième pilier qui est l'engagement actif. Il dit que l'enfant n'apprend bien, en tout cas, que lorsqu'il génère en permanence des hypothèses nouvelles. Il dit qu'un élève passif n'apprend guère. Donc, l'enjeu est de faire participer en cours pour que son esprit pétille de curiosité. Donc, il faut vraiment que ce soit actif et pas que du cours magistral qui est descendant, etc.
Ça existe, ça ?
Ça existe encore.
Magistral descendant ?
Non. En tout cas, il dit qu'il y a un bilan des études sur le sujet, en tout cas, qui montre que les enfants qui bénéficient d'un enseignement favorisant l'engagement actif ont des résultats supérieurs d'un tiers. C'est quand même... troisième pilier, c'est le retour sur erreur. Parce que je trouve que les deux piliers, les deux premiers, sont depuis un petit moment, on entend parler. Mais le retour sur erreur, c'est un petit peu nouveau, moi, je trouve. On dit que l'enfant qui s'engage doit rapidement recevoir un retour sur erreur, que l'erreur est la condition même de l'apprentissage. Et il descend les notes là-dessus. Il dit que les notes ne sont pas un bon système. Elles ne donnent pas une information précise sur où l'élève s'est planté.
Alors, là, moi, si tu veux, là, si je fais une petite réaction, si tu veux. La note à l'ancienne, oui. La note à l'ancienne où on va te dire, ah ben, en maths, toi, tu vaux 12, en anglais, tu vaux 11. Ça veut rien dire, quoi. Est-ce que tu es capable de produire un texte ou est-ce que tu es capable de suivre une conversation ? Il y a quand même un monde entre les deux. Après, quand tu cibles par compétence, je pense que c'est là que ça devient intéressant.
Oui, c'est pas la note, tu dis, c'est on cible par compétence, mais on peut pondérer une compétence. Je suis d'accord. Je suis un peu plus d'accord avec toi. Il dit qu'en tout cas, pour lui, la note, elle a pas l'intérêt pédagogique, mais qu'elle génère beaucoup de stress, surtout. Et on sait que il dit que les émotions négatives, en tout cas, ça bloque les apprentissages.
Excuse-moi, je te recoupe encore. Là-dessus, on l'a tous vu, ça. Un gamin ou un copain de l'époque du collège, du lycée, qui n'a plus rien à faire parce que de toute manière, il sait qu'il est nul, quoi. Il sait qu'il est nul. Avant même de recevoir ses notes, il plafonne à 5 ou un truc du genre. Voilà. Ça, c'est presque une porte ouverte. Presque.
Voilà, donc il dit qu'il faut décomplexer l'erreur, notamment dans l'apprentissage des mathématiques, qui sont souvent source de stress. Dernier pilier, c'est la consolidation. J'ai du mal hein, ce soir, hein, ça se s'entend. Il dit qu'il ne suffit pas d'avoir appris une seule fois, mais c'est par un jeu de répétition régulière. Déplacer cet apprentissage superficiel vers des circuits cérébraux plus profonds qui les rendent autonomes, ils disent. Donc il faut qu'il y ait une répétition, une habitude en tout cas, parce qu'au début il prend l'exemple de la lecture. Qu'au début, bah c'est difficile, on déchiffre souvent hein, très très lent, et puis ça devient une habitude, ça s'automatise, et ensuite ça devient totalement inconscient. Il nous dit, en tout cas, pour maximiser la mémorisation à long terme, on doit réviser, en tout cas, nos connaissances à intervalles réguliers et croissants.
Oui. Et là aussi, si tu suis n'importe quel truc, on te dira ce que tu as appris du style, je ne sais pas moi, des dates en histoire, au bout de 6 mois, qu'est-ce qui t'en reste ?
Tout à fait.
C'est effrayant si tu n'as pas... Il vaut mieux, en gros, ce que l'on dit, généralement, quand on parle d'apprentissage, il vaut mieux plusieurs fois à petite dose qu'une seule fois à grosse dose. Voilà. Parce que le cerveau, comme ça, tu as des... Enfin,
après, Il met même un chiffre dessus. Il dit que si on veut retenir quelque chose pendant 10 ans, il faut les réviser au bout de 2 ans. J'aime assez le concept. Après, il finit sur le sommeil. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu, qu'il joue un rôle crucial dans cette consolidation, que le sommeil est une partie intégrante, en tout cas, de l'algorithme d'apprentissage du cerveau. Et il dit que chez l'enfant, en tout cas, c'est la profondeur du sommeil est directement corrélée à la quantité d'apprentissage. Et il dit même 3 fois plus que chez l'adulte. Et il y a eu des études qui le montrent en laboratoire. Il dit qu'on peut augmenter la profondeur du sommeil, par exemple, en diffusant un bruit de vague synchrone avec les ondes lentes du cerveau. Et donc, ils disent que les apprentissages, d'ailleurs, ont été mieux consolidés. C'est dingue, hein?
Ouais, mais pourquoi pas? Après, on parle de quelqu'un qui fait vraiment des études, qui est à fond dans son
bien
truc.
Sûr.
On est... déborde un peu. Non, moi, ce que je vais retenir, si tu veux, c'est qu'il y a des choses qui vont nous paraître évidentes en tant que professionnel. Il y a des choses qui paraissent évidentes pour peu que tu t'intéresses un peu à l'apprentissage de façon générale, etc. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, il y a une espèce de... on commence à assembler les choses et à arrêter de les regarder les unes par rapport aux autres comme si elles étaient indépendantes. Le sommeil, la répétition, tout ça, ça commence à devenir une espèce de champ heuristique. C'est beau, ça. Non, ça devient quelque chose de beaucoup plus dynamique et on arrête d'avoir des trucs un peu disparates. Voilà.
Voilà, je continue, je finis sur l'article. Il parle donc de qu'on apprend mieux aussi quand on alterne les temps d'apprentissage avec des tests sur les connaissances. Ça, voilà. Donc, il dit que le premier, ils ont fait une étude en tout cas de comparer la réussite à des tests de mémoire de 2 groupes d'enfants et d'adultes aussi. Le premier passait tout son temps à étudier et le second alternait sur la même durée les périodes d'études et les périodes de tests. Et ils se sont rendus compte que le dernier groupe, en tout cas, mémorisait bien mieux. Et il finit sur le risque des écrans, puisque c'est un peu en ce moment, on entend beaucoup sur les bénéfices et les risques des écrans. Il dit que les écrans, en tout cas, font partie de notre vie. Bah, c'est pas leur présence, mais leur contenu qui importe.
Oh, comme elle est belle, celle-là. On l'a notée ?
Ouais. Et il parle des jeux vidéo. Il se lance sur les jeux vidéo qui peuvent être vecteurs d'apprentissage très utiles, y compris des jeux d'action qui sont même pas conçus à des fins pédagogiques. Hein. Ils peuvent apprendre à l'enfant, par exemple, à se concentrer et à prendre des décisions rapides.
Ah ben écoute, moi je suis pas un grand fan de ce qu'on appelle les FPS, c'est-à-dire les first personal shooters, ces jeux de tir à la première personne, là où il y en a certains où ils se font, ils travaillent en équipe, etc. C'est assez impressionnant à voir. Hein. C'est des vraies formations. Là, ils travaillent réellement en équipe. On est loin du bricolage qu'on peut parfois faire dans nos classes. Il n'y a pas de souci. Pour revenir sur le coup des écrans, ça me fait doucement marrer parce que j'ai fait ma réunion parents-professeurs il y a 2 semaines. Et c'est la réponse que j'ai donnée à une maman qui m'a dit, mais combien de temps est-ce que vous estimez l'exposition aux écrans dans une journée? J'ai fait, ben écoutez, je ne saurais pas vous dire, aujourd'hui c'était 10 minutes, mais plus que le temps, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'on a fait avec. Parce que s'ils étaient restés 3 heures devant YouTube Kids pour que je puisse être tranquille à boire mon café, c'est peut-être pas pareil que si on conçoit, si on fait un livre numérique pour les poésies quand même. Voilà. Donc là, je peux être que d'accord.
Bien répondu. C'est bon. Voilà, et puis il finit que c'est le risque, en fait, c'est l'addiction, hein, surtout, voilà. Mais qu'on peut contrôler ce risque et en tirer, en tout cas, les bénéfices de l'immense appétence des enfants à la guerre des jeux vidéo. On peut s'en servir.
En plus, maintenant, dire, il faut aussi faire attention quand on dit le jeu vidéo. Est-ce que ça veut dire encore grand-chose, le jeu vidéo? Parce que entre un Call of Duty, un Minecraft ou un Zelda Breath of Wild...
Ouais, ben
c'est juste sur un écran, mais ça n'a pas grand rapport.
On revient sur le contenu. Ouais.
Voilà, exactement. Sur le contenu, qu'est-ce que j'en fais, quoi.
Voilà, il conclut en tout cas que quand même, hein, attention, il ne faut pas que l'informatique envahisse tout, qu'il faut encore que l'enfant lise et fasse de la musique ou écoute de la musique. Voilà.
Mais il faut... ça, c'est un vieux fantasme de voir une technologie absolument en effacer une autre. Hein.
C'est... Tout à fait. On retrouve les problèmes de la télé au début de la télé.
Voilà, elle devait tout remplacer, elle devait tuer le cinéma, elle devait tuer la radio, etc. Quoi. Les médias, Internet a débarqué, ça devait tout remplacer. Bon.
Voilà, je vous invite en tout cas à lire cet article, je trouve fort intéressant. Donc letemps.ch, le site, et vous tapez, je vous mettrai en tout cas sur les notes de l'émission, vous tapez l'erreur et apprentissage, vous allez le trouver.
Tu sais quand même que c'est le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale?
Ah ben non, je ne le savais pas, tu vois.
Bah, sauf si ça a changé depuis septembre 2018, mais ça m'étonnerait.
D'accord.
Donc voilà.
Mais tu vois, moi, c'est mon inculture.
Non, mais c'est pas du tout ça. C'est que je le confonds avec quelqu'un d'autre, sûrement, qui est aussi qui s'occupe des neurosciences, et je n'arrive pas à le retrouver. C'est pas très grave. Voilà.
Ouais, je sais pas. Sur le Wikipédia, je le vois pas marqué. C'est pour ça, si.
De quoi, le président du.
Ouais.
Ah, écoute, pourtant, je vois ça. Il a été invité sur France Inter. Bon, France Inter, c'est quand même pas. C'est pas même pas Joël Clodo qui fait les interviews.
Ah oui, ça y est, si. Conseil scientifique de l'éducation nationale. Ok, c'est bon.
Alors, tu me rassures, hein, parce que là, je suis en train de me dire si j'ai sorti une bêtise là-dessus. Non, mais c'est. Après, comment te dire. Oui, on peut pas être. Moi, je peux pas être foncièrement d'accord avec ce qu'il a. Foncièrement en désaccord avec ce qu'il a dit, là. C'est. Il y a des trucs de neurosciences basiques, la répétition, la concentration.
Et l'erreur.
Ouais, et l'erreur. Alors, l'erreur, justement, c'est intéressant. Pourquoi moi, c'est toujours un principe de base que je dis, à quoi ça, pourquoi tu le fais en numérique et pourquoi tu ne le ferais pas sur du papier? Je dis, ben, c'est simple. Quand, par exemple, je demande à mes élèves d'aller chercher l'erreur qu'il y a dans un programme, s'ils le trouvent, ils le voient tout de suite. S'ils ne le trouvent pas, ben, ils recommencent tout de suite. Voilà. C'est aussi simple que ça. Au-delà de la motivation particulière que tu peux avoir sur un outil numérique plus ou moins sympathique, etc. Mais on peut avoir des outils numériques assez vieillots, truc. La réponse est immédiate. Ça, voilà.
Ok.
Voilà.
Allez, on a fini pour. On va parler d'autre chose un petit peu. Hein.
Alors, si tu veux, j'y vais.
Vas-y. Ouais.
Moi, je vais partir dans le vieux. Je suis un cas à part, j'imagine. J'ai un abonnement Netflix. J'imagine que c'est un truc qui est très très rare en France. Sur Netflix, ils ont mis la dose question Star Trek. Voilà. Alors, moi, je suis pas un Trekkie. Je suis passé complètement à côté de la vague Star Trek. Je m'y suis un peu mis depuis quoi? Depuis les films de les derniers films en date. Hein, je parle bien des derniers films en date des années 2000. Et du coup, je me suis un petit peu intéressé comme ça. Mais là, j'ai regardé sur Netflix, ils avaient quasiment toutes les séries. Et là, je regarde la deuxième série, pas la première, je peux pas. La première, elle est trop vieille. Mais la deuxième série, Star Trek New Frontier, avec Patrick Stewart en Jean-Luc Picard.
D'accord.
Et franchement, si vous aimez la SF, c'est un ton assez particulier. C'est pas vraiment. Je m'attendais pas vraiment à ça. Il y a une liberté de ton sur la sexualité. Jean-Luc Picard, bon, quand il se met à parler français, c'est horrible. Il hein. Y a des moments, il y a un épisode, il parle trois mots en français, tu fais, oh, je pleure des larmes de sang. mais c'est assez amusant quand même. C'est vraiment assez amusant, c'est de la bonne SF, voilà, avec des trucs, avec des classiques. Il y a l'androïde, il y a le médecin, il y a tout ça, mais ça fait plaisir à voir. Plaisir à voir. Bon, je crois qu'il y a 7 saisons de 26 épisodes.
Donc, c'est celle de quelle époque alors qui était...
Celle-là doit dater des années 90.
Les 90, donc c'est celle que
alors, ça va. Ça, en effet spéciaux, je ne m'attends pas à grand-chose, donc je ne suis pas déçu. Mais c'est assez sympa. C'est assez sympa, franchement. C'est pas trop action. Je ne pense pas qu'ils avaient les moyens de toute manière à l'époque. Et c'est pas trop non plus, ça ne reste pas dans le cérébral, donc...
Donc, tu es parti pour te taper les 7 saisons, là?
Écoute, c'est un côté très pratique, c'est que les épisodes étant peu trépidants, je peux les mater en même temps que je fais des corrections de copie.
D'accord.
Et ça, c'est un argument de poids.
D'accord. Ouh, je sais pas. Hein. Je sais pas si tu vas donner envie d'aller les revoir. Hein.
Ah ouais, écoute, franchement, écoute, quand tu en as 7 de 26, il faut bien que tu fasses 7 fois 26. Il faut que je fasse quelque chose à côté, là, je peux pas.
Je les ai pas revus, moi, les Star Trek. Je les voyais à l'époque quand je tombais dessus, mais.
Moi, j'ai eu la mauvaise idée de regarder les films quand je crois que c'était Arte qui a fait une rétrospective.
C'était nul, les films.
J'avais trouvé les idées de base étaient géniales, mais le traitement.
Ouais,
c'est pas qu'il datait, mais j'ai pas du tout accroché.
Même les nouveaux films qui sont faits après, j'ai jamais trop accroché. Mais...
J'ai bien aimé. Moi, il y a des trucs que j'ai bien aimé, des trucs que j'ai regretté, bien sûr. Mais bon, après, c'est toujours le côté un peu geek. Ça fait partie de la culture pop. Donc,
ça tout à fait.
Interpelle toujours.
Et voilà. D'accord, très bien. Allez, moi, je finis par un petit article sur le site frandroid.com, ce qui parlait de Tesla, en tout cas, sur des voitures autonomes.
Alors, heureusement que Guillaume n'est pas là, parce que sinon, il te fait une remarque méchante. Tu parles encore de Tesla. Encore Elon Musk.
Merde, j'ai un problème avec lui. Et en tout cas, c'est des. Alors, c'est pas eux directement qui ont fait ce petit test, mais c'est deux hackers qui s'appellent. Ont répondu le hacker Very Green. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est. Qui ont acheté tout un kit d'autopilote Tesla. Après, a priori, enfin, pas le véritable, hein, mais sur eBay, ils ont pris un kit où on peut rendre sa voiture autonome. Et ils ont essayé, en tout cas, de simuler ce que les voitures Tesla avec l'autopilote voyaient. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est assez hallucinant, en tout cas. On voit la voiture avancer, on voit au sol le trajet de la voiture, et on voit tous les obstacles qui sont entourés par des rectangles, où on leur donne la vitesse de l'obstacle, la dimension de l'obstacle. Mais c'est tous les obstacles, hein, c'est de la voiture. Aux piétons, aux cyclistes, etc. Alors, ils disent qu'il y a quelques erreurs à signaler, en tout cas par rapport à ce qu'ils ont fait. Des fois, il se fait avoir sur des choses à l'arrêt, par exemple. Il y avait un conteneur à l'arrêt, la voiture s'est arrêtée en pensant que c'était un véhicule, quoi. Voilà, des petites erreurs comme ça, mais qui disent que Tesla ont sûrement corrigé. Donc là, je vous invite à aller le voir, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de voitures autonomes, on ne sait pas trop ce que détectent les voitures autonomes. Je vous invite à aller voir en tout cas cette petite vidéo. Je vous les mettrai dans les notes de l'émission. C'est dans Paris. Voilà, ça montre la puissance en tout cas du traitement algorithmique d'ailleurs. Voilà.
Bon, d'un autre côté, si elle arrive à conduire à Paris, c'est bon. Elle est plus qu'autonome. Hein.
Plus qu'autonome, tout à fait. Voilà. Voilà, et je ne savais pas qu'on pouvait faire l'acquisition, en tout cas, sur eBay d'un autopilote hardware 2.5.
Voilà. Je pense que personne ne le savait, à part les hackers. Là, franchement.
C'est assez hallucinant, ouais. C'est sûr. Et bien voilà, on arrive au terme de cette émission. Allez,
comment nous retrouver, Jeff?
C'est ça, comment nous retrouver? Eh ben, vous vous retrouvez sur notre site eTeachers.fr, tous nos podcasts audio, en tout cas. Vous pouvez nous retrouver aussi tous les 15 jours en live, hein, sur YouTube. Si vous pensez que l'émission mérite un petit euro, quelque chose comme ça, pour nous aider, en tout cas financièrement, vous pouvez aller sur tipeee.com/eTeachers. Vous pouvez mettre en tout cas la somme que vous pensez que l'on mérite. Voilà, ça nous aide en tout cas pour faire marcher en tout cas l'émission. Et vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, on a notre page, notre Twitter maintenant, eTeachers. Voilà, et on peut aussi nous joindre directement, Seb.
Alors moi, c'est sur Twitter avec @stuteur, S-T-U-T-E-U-R.
Voilà, et moi, ce sera @jeff8342. Dans 15 jours, sûrement un invité, il me semble.
Oui, normalement, un invité, écoute, on espère.
On n'en dit pas plus.
Voilà, tout à fait. Surprise.
À bientôt. À tous. Ciao.
Ciao.